Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier, comme d'habitude, Solveig et Luc, qui ont été super. C'est quoi cette musique? Qui ont été super chouettes de m'accueillir, enfin de proposer de parler devant vous en étant un master. C'est quand même vachement chouette d'avoir accès à ça, quoi. Et puis, enfin, à toute l'équipe PIN, et puis surtout à vous d'être ici, d'être concentré et d'apprécier autant les belles présentations qu'on a eues voilà, depuis ce matin. Moi je vais vous parler de l'espace punk, donc pédagogie et sociologie de la carrière punk. Je pense que déjà il y a certaines personnes qui ont déjà vu mes présentations passées, donc j'ai essayé de renouveler un petit peu ou de prendre des axes différents, mais bon, je parle quand même de ma recherche via mon master qui est sous la direction d'ailleurs de Luc. Donc il faut savoir que déjà moi je suis acteur aussi de la scène, je suis musicien, donc j'ai cette approche participante. Donc voilà, je vais vous parler de ma recherche qui est en cours. Donc du coup, en fait, l'année dernière, ma recherche a surtout... j'ai surtout parlé en fait des transmissions autour des valeurs de DIY. Et donc, je m'appelle Manuel. Voilà. Manuel Roux, ou Le Roux, parce que c'est marqué Le Roux là. j'ai questionné en fait ce paradoxe qu'il peut y avoir... avec le fait de s'émanciper de la norme sociale, est-ce qu'on peut apprendre à s'émanciper de la norme sociale? Donc j'ai fait un premier travail sur ça. Et aujourd'hui, je fais donc une recherche qui est qualitative, donc on pourrait considérer d'ethnologique, à travers déjà un premier entrée des récits de vie, pour avoir un petit peu comprendre comment ça se passe dans la vie des individus, etc. Leur poser des questions sur comment ils voient le milieu du punk, comment ils évoluent là-dedans, qu'est-ce qu'ils font dans la vie à côté. Et aussi sur une observation participante. Alors là, je le ferai donc dans une semaine, puisque je pars en tournée donc, du coup, avec deux groupes de musique. Et je vais un petit peu interroger qu'est-ce que c'est que la pratique de la tournée, pour essayer d'observer un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les valeurs, les normes qui sont dans ce milieu-là. Je m'intéresse particulièrement, d'un point de vue global du moins, en fait, à ce que les cultures populaires peuvent dire des institutions. Donc je m'intéresse, d'un point de vue direct, c'est sûr, à ces cultures-là, mais aussi de ce que ça dit un petit peu sur ces institutions. Donc, vu que je suis en sciences de l'éducation, mais je m'intéresse particulièrement à l'école, forcément. Mais aussi comment on peut construire des formes d'épanouissement en dehors des canons institutionnels, en fait. Donc c'est pour ça que là, le thème du colloque m'intéresse particulièrement, parce que on parle de carrière, comment on peut avoir une certaine forme de, je sais pas comment le dire, de succès peut-être dans le milieu du punk. Donc interroger peut-être ça. Et aussi, il faut savoir que donc au niveau de la position du chercheur, donc je vous parle un petit peu de mes questionnements qu'il y a en ce moment même et ce que je veux porter comme sociologiste, c'est ce que j'espère pouvoir faire. Et donc, il y a cette histoire de sociologie réflexive de terrain que j'aime bien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que disaient en fait aussi Luc et Solveig dans leur étude en fait qu'ils ont sorti sur Volume. C'est qu'ils disaient que le punk, en fait, c'est un sujet qui est difficile, qui se plie mal à l'exercice scientifique, parce que soit il est tourné à la dérision, ou juste parce que c'est un milieu qui peut paraître assez fermé pour y entrer. Je sais que souvent, c'est des discussions que j'entends de personnes dans les récits de vie qui me disaient « Ouais, moi, au début, entrer dans le punk, ça me paraissait bizarre, il y a une espèce d'entre-soi, ça me paraît pas être un truc accessible. » Et donc, du coup, en fait, ce qui m'intéresse, et je trouve que ce qui se plie bien d'un point de vue épistémologique de travailler sur ces trucs-là, c'est travailler en fait sur l'utilisation du corps en fait immergé comme vecteur de connaissance du monde social. Donc c'est pas tant parler, on parle de posture participative, mais c'est peut-être à aller plus loin. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un livre qui est super bien de Loïc Vacan, qui s'appelle Corps et âme, où il parle de la sociologie. Il a parlé des processus de ghettoisation, je sais pas si ça se dit. Mais en parlant des clubs de boxe qu'il y a à Chicago. Et donc du coup, il a été obligé de boxer en fait avec tout le monde, quoi. Et donc c'est comme ça qu'il a imposé d'une certaine façon cette sociologie du corps un peu sensuel, qu'est-ce qui se passe à travers ce que je peux ressentir. Donc on pourrait y voir un obstacle épistémologique, je préfère le voir en fait comme un truc qui est vecteur du connaissance du monde social, quoi. Donc c'est mettre en fait ce corps socialisé, sensuel, compétent, qualifié, sédimenté aussi, du chercheur, et pouvoir questionner ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc du coup, je vais, après mon petit speech sur un peu épistémologique là-dessus, je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire. Donc je vais parler déjà de la sociologie de la déviance, je vais commencer par parler du punk avec ce prisme-là, donc un truc à la Becker un petit peu. Ensuite, je vais parler du do it yourself comme moyen de transmission de valeurs et de normes. Et enfin, interroger ces carrières punk. Quand je parle de carrière punk, je parle en termes sociologiques du terme. Il ne faut pas y voir quelque chose de directement, comme un truc, comme s'il y avait une industrie punk ou ce genre de choses. Alors déjà, je me suis aperçu, et ça c'est vraiment mes données de recherche par rapport à ma participation et aussi des récits de vie que j'ai faits, c'est du coup que les personnes que j'ai interrogées, donc comme l'a dit Solveig tout à l'heure, c'est des personnes qui viennent d'un milieu culturel fort. Donc il y a souvent par exemple des parents d'instit ou ce genre de choses. Ah, il a un peu bougé mon truc. Bon bref. Alors ça va paraître bizarre, pourquoi je prends comme entrée l'école. En fait je me suis rendu compte au fil des entretiens que l'école revenait souvent dans les récits de vie. Alors ça peut venir du fait aussi que les gens savaient que j'étais en sciences de l'éducation parce que je me suis présenté comme ça. Mais bon, c'est quelque chose qui revenait souvent dans un petit peu... quand tu parlais du punk, comment on est arrivé au punk et le rapport qu'il y avait à l'école. Donc la vie des punks est liée à cette vie scolaire et dans une espèce de jeu d'équilibre, en fait. Et il y a une espèce de transmission, en fait... quand je parlais de capital culturel fort, la transmission de la famille, d'un point de vue en socialisation, elle est importante au niveau de la vision de la société qu'on peut avoir, qui est souvent d'ailleurs politique. Les gens qui rentrent dans le punk ont souvent déjà un regard sur le monde ou une appétence pour la politique. Et plus largement, en fait, la culture familiale est adaptée en fait à la culture scolaire. C'est pas des élèves qui arrivent comme ça, qui ne savent pas comment se positionner en classe, etc. Donc on peut parler d'un public qui est donc considéré comme blanche, masculine souvent. C'est vrai que les acteurs de la scène, c'est souvent des mecs, même si il y a un antisexisme dans la scène, c'est l'une des valeurs principales portées. C'est quand même, on voit souvent que des mecs sur scène ou acteurs. Et de façon grossière, on pourrait parler de classe moyenne. Après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que ce qui revenait souvent chez ces personnes-là, c'est qu'il y avait un décrochage en fait, au lycée, aux études supérieures. Il y a une espèce de perte de repères. Et je l'ai assimilé en fait, à cette remise en question du système éducatif. Donc, c'est-à-dire que c'est un public, comme je disais, qui a un capital culturel fort de par la famille. Et qui du coup sont à même de remettre en question ou du moins d'avoir une vision de des formes de transmission éducative. Donc l'idéal du do it yourself, donc fais-le toi-même, tout le monde peut le faire, tout le monde a sa place, la tolérance poussée à son paroxysme, donc là je vais en parler dans la prochaine diapo. Je vous ai donné une petite citation d'un mec qui s'appelle Rémi, et qui illustre bien ce que je viens de dire, c'est que donc j'étais un très bon élève jusqu'à mon arrivée au collège et je suis parti en couille, excusez-moi de son expression. Et puis j'ai jamais pris l'école au sérieux. C'est marrant pour une mère qui était instite en plus. Il faut savoir que lui c'était un élève qui était premier de la classe pratiquement jusqu'au collège et qui comme il dit, il est parti en couille après quoi. Du coup, sociologie de la déviance, punk comme espace social. Pourquoi on parle de déviance ? La déviance, c'est pas que être dans l'illégalité ou ce genre de choses. Enfin, pourquoi j'ai parlé de déviance ? Donc, c'est parce que le punk a son propre système de normes et valeurs. Et il y a une incorporation de ces systèmes de valeurs, donc bien sûr dans un processus qu'on pourrait considérer comme dynamique. À chaque fois, on remet en question notre position, comment je pourrais le mieux être en accord avec mes positions, comment je peux le mieux les appliquer ou les changer tout simplement. Enfin, pas changer forcément du tout au tout, mais voilà, il y a quand même de la remise en question, c'est quand même un processus qui est dynamique. Donc comme tous les champs de la vie sociale, en fait, le punk est aussi sujet au jeu de position et de pouvoir symbolique pour déterminer les critères d'appartenance et donc de normes et valeurs légitimes. En fait, pour être admis à ce milieu-là, il y a une espèce d'obligation de positionnement idéologique. C'est un fonctionnement qui est rendu tacite et difficile à observer de par la nature en fait même de l'idéologie punk, qui se voudrait émanciper de toute forme de pouvoir, de forme de pouvoir et de hiérarchisation sociale. Et donc il y a une espèce d'obligation de position qui est de juge de la société, donc un jugement critique de cette société-là, mais aussi juge des pairs, qu'on peut voir par exemple. Un exemple que j'ai vu, c'était un groupe qui avait critiqué un autre pour avoir joué au Hellfest, parce que justement ils considéraient que c'était pas DIY, parce qu'il y avait des sponsors avec par exemple Monster ou ce genre de choses, et qui du coup ne trouvaient pas ça punk. Et à contrario, l'autre groupe qui disait, ben non, justement, c'est ce que disait je sais plus qui ce matin, c'est que ben, c'était une façon aussi de jouer devant un plus large public pour faire valoir ses idées, ou du moins les échanger. Donc voilà, c'est ce que je disais sur l'idéal du do it yourself, donc fais-le toi-même, tout le monde peut le faire, tout le monde a sa place. Donc cette tolérance poussée à son paroxysme, il faut le voir, enfin je le vois comme ça d'un point de vue sociologique, l'éthique do it yourself, c'est un instrument de pouvoir symbolique. C'est un instrument pour, comment dire, permettre en fait de normaliser les pratiques, ou du moins, comment dire, donner une certaine système de valeurs. Donc on parle de hiérarchie légitime qui forme... Enfin, c'est du moins l'axe que j'ai voulu prendre, le voir comme forme de capital. Donc je reprends un petit peu ce qu'a dit Simon tout à l'heure. Si on parle de profit punk, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient en participant et surtout dans l'engagement axiologique. C'est quelque chose de comment dire, on ne peut pas être dans le milieu du punk sans être à minimum, comment dire, engagé, avoir une axiologie, avoir un positionnement là-dedans. Alors, je vous ai mis cette diapo, en fait, c'est pour illustrer un peu ça. C'est une organisation de concert qui est basée sur Toulouse et qui, paradoxalement, même si on parle de tolérance et de ce que je disais, c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs dans mon étude de l'an dernier, c'est ce paradoxe-là qu'il peut y avoir. Donc pour ceux qui ne sont pas accoutumés à l'anglais, en fait il dit tout simplement, la personne qui organise des concerts, qui n'accepte pas le racisme, le spécisme, l'homophobie ou toutes les formes d'oppression, et si tu es d'accord avec ça, eh bien, en gros tu peux jouer. Donc voici un exemple de normalisation un petit peu, ou de critères de positionnement qui permet en fait de comment dire, de normaliser les actions ou du moins les formes de pensée. Alors ça, du coup, la transmission de l'éthique do it yourself, alors ça j'en ai déjà parlé, mais ça me paraissait important de le reprendre. Comment cette éthique do it yourself est transmise? Donc je me suis intéressé à ça l'an dernier aussi. Donc il y a une dimension maïotique, un peu assez socratique, donc, c'est-à-dire d'accouchement des savoirs, du désir d'apprendre. Donc il y a cette forme d'entrée qui est intéressante, parce que c'est l'envie et la passion qui unit tout le monde dans ce milieu-là, quoi. Donc ça me paraît quand même important de le dire. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à vouloir tourner avec mon groupe, parce que je ne savais pas du tout comment on faisait, et il y a un mec qui m'a dit un jour, qui était déjà assez, comment dire, qui avait pas mal de vécu dans cette scène-là, qui m'avait dit, mais tout simplement, fais-le, quoi. Et je le rapproche avec cette dimension maïotique, c'est-à-dire, si tu as envie de faire quelque chose, tu as tous les outils pour le faire, donc fais-le. Donc il y a cette espèce d'idéologie. et cette espèce de truc dont bah, tu peux le faire. Le champ des possibles est carrément ouvert. Quels sont les supports et les lieux de transmission? Bah, ils sont vachement variés, donc ça va être tout ce qui est fanzine, paroles de chansons, discussions informelles, discours, internet, concerts, les squats et la tournée. Il y a des représentations diverses, mais la même idéologie, c'est quand même reprendre le contrôle sur sa vie. C'est-à-dire, bah, personne ne va le faire pour nous, bah, on va le faire. Et donc, on en parlait aussi ce matin, mais il serait plus juste de parler de « do it together » parce que c'est quand même quelque chose qui se fait dans la relation à l'autre, rien ne peut se faire sans les autres, en fait. Ça, c'est une autre personne qui m'a dit « moi, je pense qu'avant, j'étais quelqu'un de super timide et je pense que ça m'a amené une rigueur, le fait d'apprendre à communiquer avec les gens. Ça m'a apporté une clarté, le fait d'avoir confiance en soi, de faire les choses pour les autres, d'avoir aussi une écoute, ce que tu apprends pas forcément à l'école. » Donc là, il y a encore le lien avec l'école. Et c'est là où on pourrait peut-être accrocher, donc, du coup, avec ces comment on réussit dans le punk, et bien c'est peut-être à travers ces sources d'épanouissement. Donc là, on va parler des carrières punk, donc, comme je disais, d'un point de vue sociologique. Donc il faut savoir que ces carrières punk reposent essentiellement sur un capital culturel, social, construit dans ce milieu-là. Ce capital ne peut donc se construire qu'en participant à la production, à la diffusion, à la transmission de cette culture-là, de cette culture punk. Et là, je vais prendre l'exemple en fait, de la tournée. Alors, je ne suis pas encore parti sur mon terrain de recherche, mais en étant observateur avant sur d'autres tournées, ce qui me paraissait intéressant dans la tournée, c'est que déjà, il y a une valorisation de cette pratique-là. Ce dont je me suis aperçu, c'est que c'est bien de faire des tournées. C'est la volonté de tous les musiciens ou de toutes les personnes acteurs dans ce milieu-là, généralement, de vouloir tourner, de vouloir voyager avec la musique, de rencontrer des gens. C'est quelque chose qui est énormément valorisé dans cette scène. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le fait de tourner, c'est qu'on se rend compte, à travers tous les groupes qui tournent, c'est là où il y a des pratiques diverses qui sont très situées et qui révèlent en fait les prises de position idéologiques de ces acteurs. Je vais prendre un exemple, par exemple le merch du prix libre. Tous les groupes ne le font pas, mais il y en a qui le font parce qu'en fait, ils considèrent que on n'est pas des marchands. Alors du coup, là je vous parle vraiment de discours qui ont pu être tenus. Donc du coup, vu que ça me paraît bizarre de vendre quelque chose, je vais essayer de le rendre comme une forme d'aide. Par exemple, ça peut être aussi, je vais vendre des t-shirts dans des pays différents et tous les pays quand on tourne n'ont pas la même, ne sont pas aussi riches. Et bien du coup, tout le monde ne peut pas se payer un t-shirt à 10 euros. Donc comme je disais, il y a une valorisation du fait de tourner autour des voyages, etc. D'ailleurs, il serait intéressant d'observer en fait les résurgences et les différences de ces pratiques-là dans ces pays différents. Mais bon, ça, c'est un autre sujet d'étude. Je vous répète ce qu'a m'a dit un ami à moi que j'ai interviewé aussi. Tu te rends compte que lorsque tu es à l'école, tu es un peu perso au final. Moi, je sais que j'avais pas méga de potes, je ne me sentais pas forcément... Tu sais pas trop où tu chopes le soutien. Et c'est marrant parce qu'en tournée, tu apprends à prendre soin des gens avec qui tu es pour que ça se passe bien. En gros, le mode de vie que j'ai trouvé dans la ZIC et dans le Do It Yourself, à donner un sens pratique à tous les trucs que je pouvais apprendre. Et donc c'est intéressant en fait de ce que nous a dit Quentin, parce que on se rend compte en fait, et c'est comme ça que j'aime bien le voir le punk, c'est que déjà c'est une zone expérientielle de la vie, donc c'est l'école de la vie, un peu comme une zone scolastique au sens de Bourdieu l'avait dit. C'est quand je parle de sortir des enjeux sociaux de la vie, je parle en fait d'une zone où justement on peut s'essayer à la vie. C'est pas forcément qu'on sort des enjeux de la vie dans le sens où on est déconnecté de la vie. Au contraire, c'est là où on va trouver une identité, on va se construire une identité, comme je l'ai dit, axiologique. Mais surtout, on va trouver un sens pratique aux choses. Par exemple, ce que disait Quentin, l'anglais, il en avait rien à cirer quand il était à l'école. Et quand il est arrivé dans le milieu du punk, c'était une nécessité de parler anglais pour pouvoir tourner. Et donc là, il s'est rendu compte de l'utilité de ce que ça pouvait être. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est peut-être là où, pour finir, on peut réussir dans le punk, parce qu'on construit en fait un capital culturel qui est durable et qui est transposable après dans la vie. Je vois le punk comme pas forcément une façon d'être déviant, paradoxalement, à ma première diapo, mais plus de mobiliser des ressources, mobiliser un, comment dire, une certaine axiologie ou un certain regard sur le monde qui nous permet d'avoir une certaine continuité dans notre vie et puis aussi de nous positionner dans la société. Donc voilà, je vous remercie et de votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Manuel pour cette présentation de ton travail de master en cours.